prendre le train pour Capri-la-Belle. Capri-la-Belle avant la saison, passant par Vérone derrière les créneaux. Je vais voir le fantôme du beau Roméo et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite, allons à la gare de Lyon.
Timing.
Bonjour, vous êtes bien sûr 89.4 Radio Libertaire. Et est-ce que Laurent, tu veux dire un dernier mot ? Non. Alors merci pour le passage d'antenne et donc c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et aujourd'hui nous allons rediffuser une heure de travail qui a été dénichée dans les archives grâce au travail de Vivien, grâce au travail d'André, grâce au travail d'Élodie et Aurélien que je remercie. C'est un travail qui s'appelle L'arbre à racines et dans cette émission, les enfants qui avaient l'âge, je pense, qui ont aujourd'hui l'âge des parents des enfants qui sont à l'école et qui nous écoutent, j'espère, faisaient donc des interviews de personnes de leur famille, parents, grands-parents, qui venaient parfois d'une région éloignée de Paris, qui venaient parfois d'autres pays. Et donc cette émission, L'arbre à racines, permettait de faire beaucoup de découvertes. Donc c'est ce que nous allons redécouvrir aujourd'hui. Bonne écoute.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Nicolas, il parle moi, j'adore. Tous les jours, c'est la farine sèche, la morue rôtie, et puis fouille y a pas. Si ma mère, les moins nouveaux, si ma maman, elle pas capable moi manger. Si ma mère ou les moins vénégaux, si ma maman est pas capable moi rien. Maman moi qui fait du ridou, oui ben Nicolas, il papa moi yadan. Tous les jours c'est la farine sèche, la morue rôtie, et puis fouille à pain.
Embarquement pour les Antilles.
C'est un martinique de la commune du Saint-Esprit, dans le sud de martinique. Il y a toutes les montagnes, tout est ouvert. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 11 ans. Et après, j'ai venu en métropole et j'ai grandi ici. Et maintenant, je retourne là-bas pour les vacances pour voir mes grands-parents, enfin, toute ma famille qui est restée là-bas.
Mais moi, je suis Sylvie, je suis de la Guadeloupe, de la commune de Pointe-à-Pitre. Je suis née à Pointe-à-Pitre. Maintenant, j'habite, mes parents habitent à Bémao. Je suis à Basse-Terre, mais bon, je suis née en Guadeloupe et je suis arrivée ici en 89. J'ai été à l'école toute mon année scolaire en Guadeloupe.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Claude, je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'adolescence, donc j'ai fait toute ma scolarité à la Guadeloupe. Je vivais à Pointe-à-Pitre, le centre-ville, donc je suis situé un petit peu au nord-ouest. J'ai passé une très belle enfance, j'aime me souvenir avec plaisir.
Je me présente, je m'appelle Gilberte, je suis originaire de la Guadeloupe. d'une commune qui s'appelle, très touristique, qui s'appelle Sainte-Anne, et qui est située, je crois, c'est dans le sud-est. Dodo Maminette, l'enfant de Jeannette, si Maminette, dodo passe, à t'marron va sous cali. Dodo Maminette, l'enfant de Jeannette, si Maminette, dodo passe, à t'marron va sous cali.
Là-bas, c'est différent. C'est différent. Parce que le souvenir que j'ai gardé, c'est que là-bas, les professeurs étaient méchants. Ils catalysaient les élèves. Et ça m'a marqué. Donc, c'est ça le souvenir que j'ai gardé. Sinon, j'aimais bien, quoi. Ça dépend, pour moi, c'est pareil. À part ici, les professeurs, ils sont, comment on dit, c'est cool. C'est pareil, c'est beaucoup dur, la scolarité est plus facile ici que là-bas. Là, il y a moins de travail, c'est ça, et puis voilà. À part ça, bon, c'est vrai que par rapport à l'école, elle fréquente ma fille, mais c'était complètement différent. Je vois par exemple par rapport à la maternelle, je pense qu'à l'époque, c'était des questions, mais je ne savais pas. On différenciait par rapport à des couleurs. Alors, tous les enfants portaient ce qu'on appelait une blouse. C'était le même tissu, mais de différentes couleurs. Alors, il y avait du vert, du bleu, du rouge. Mais à l'époque, je pense que c'était des questions. Alors, cette école, c'était une école communale, à la maternelle. Mais ce qui était bien, c'est que l'école maternelle, en fait, était inclue dans l'école, tout ce qui était primaire. Mais c'était, si vous voulez, il y avait une cour, chaque cour était entrecoupée par un mur. Mais on pouvait voir les enfants de la maternelle et voir les enfants de la primaire. Alors, j'ai fréquenté toute l'école primaire, j'étais effectivement dans la même école, une école communale, et à partir du collège, on changeait complètement. C'était toujours une école communale, mais c'était dans un autre, bon, on va dire, un autre établissement. Et là, à partir, j'ai fréquenté jusqu'à la troisième. Et à partir de la troisième, parce que généralement maintenant ça a changé, parce que maintenant on a un lycée, mais on était obligé de partir, on était de certaines communes, de partir sur la capitale qui était Pointe-à-Pitre, où il y avait un lycée. Et c'est là que j'ai fréquenté le lycée, je me suis installée ici après le bac. Mais sinon, au niveau de mes souvenirs, c'est-à-dire au niveau des jeux, au niveau de tout ce qui est, qu'on étudie, je pense qu'il y a une large différence. Et au niveau de l'éducation aussi, je me rappelle quand j'étais en primaire, on avait des règles à respecter. Et par rapport à maintenant, on avait la fessée qui était autorisée par les parents, alors que maintenant, un maître ou une maîtresse qui tape un enfant... C'est tragique. C'est très tragique, ça peut aller très loin. Eh bien, on avait de bonnes fessées, je peux dire que ça ne faisait pas de mal, et ça nous permettait de progresser quelque part. C'est toujours beau, le 1er janvier pour le 1er décembre, toute l'année c'est la plage, le soleil, la chaleur. Donc tous les jours c'est la plage, après l'école. Voilà.
Mon amour, calé, ma fécale patte, moi calé, balu, ma fécarapate. Quand tu m'en as moins calé, ma fée de poutre, moins calé, belle, ma fée de poutre. Dodo, l'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. C'est maman tout seul qui est dans la misère. Dodo, l'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. Dodo, l'enfant d'eau, c'est maman tout seul qui dans la misère. Si tu t'aimes, maman coquet, c'est maman tout seul qui dans la misère. Si tu t'aimes, papa coquet, c'est maman tout seul qui dans la misère. Dodo, l'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. Dodo, l'enfant d'eau, c'est vraiment tout seul qui est dans la misère.
Au niveau de la récréation, on parlait normalement le créole.
mais le créole au niveau de la classe était interdit de créole. Et quand on joue entre copains et copines, on pouvait le parler, mais si la maîtresse ou le maître français, on devait reprendre le français très rapidement, alors que c'est nous, la première langue qu'on a appris, c'était le créole. Bon, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, le créole a repris un petit peu le dessus avec, avec cette affaire de politique. Hein. Il y a eu, l'affaire des indépendantistes qui est arrivée, en partie, mais ça a fait en fait que le créole a pris un petit peu le dessus et qu'il est enseigné. Bon, c'est une langue qui est très difficile, pas difficile à parler, je dirais, mais très très difficile à écrire. Et bon, maintenant, ça commence à venir. On a l'orthographe, la grammaire, on a des livres, on a les dictionnaires. Bon, alors je pense que pour les enfants qui vivent ici, ce sera peut-être un petit peu plus pratique.
Pour nos enfants, c'est pas ça, parce que c'est vrai que moi, nous sommes quatre dans ma famille, je suis la dernière. Donc, c'est moi, effectivement, il était interdit que je prononce ne serait-ce qu'un seul mot en créole. Et comme à partir de l'adolescence, je me suis, puisque j'ai terminé ma classe de 3e, et à la 4e, je me suis trouvée donc en France. Je sais que ça fait maintenant 27 ans que je suis en France. Et quand je suis arrivée, le fait d'avoir parlé quasiment que le français et être plongée effectivement dans une société métropolitaine, donc je continue à parler le français. Il est vrai qu'il m'arrive, je parle très rarement le créole à mes enfants. Mais ceci dit, ils le comprennent parce qu'il y a la famille quand même, il y a la racine, il y a le couple, le côté familialier. Donc on voit mamie, les oncles et les tantes, donc ils sont baignés dedans et comprennent très bien. Mon fils, il est parti pour 3 semaines, il est revenu, il voit très bien le français parce que ça lui a suffi. Il le comprend très bien. Et c'est vrai qu'il m'arrive quand je suis vraiment très en colère, bon, de sortir quelque chose, ça est bien pâle. Et il comprend très bien. Quand même, on arrive à ce stade-là, il faut mieux qu'il ait dit.
Je pense qu'ici, on parle généralement le français pour les enfants, mais je crois que les mères et les pères, ils sont vraiment en colère et il faut exécuter un ordre. Je crois que le créole, les enfants, ils comprennent très rapidement que ça marche très 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 bien. Dès qu'on parle en créole, ils savent qu'ils ont intérêt à exécuter très rapidement parce que sinon, ça va chauffer. Et quand je dis, c'est vrai qu'à l'école, on nous interdisait le créole, mais généralement, c'est vrai que dans les familles antillaises, on interdisait le créole à la maison. On parlait entre enfants, oui. Les mères et les pères parlaient le créole, mais c'était interdit, et même voire interdit de parler le créole à un adulte. C'était de l'impolitesse, carrément. C'était une incorrection. Bon, maintenant, c'est vrai que les plus jeunes couples, ça commence à venir un peu, parce que moi je vois de mon couple, moi j'ai essayé très petit, d'inculquer un petit peu le créole de temps en temps pour que ma fille elle gère. Et c'est vrai qu'au début, même en parlant le créole assez souvent, en lui faisant répéter des phrases, elle a eu du mal, mais avec au bout de quelques vacances aux Antilles, là je crois qu'elle a emmagasiné et qu'elle peut s'exprimer largement en créole qu'elle a envie. Bon, mais c'est vrai au niveau de l'intonation, au niveau. Comment dirais-je? Au niveau, bon, c'est pas très joli, la façon de prononcer les choses, mais on se comprend.
Quand je revenais de l'école, en général, c'était les devoirs, directement, d'abord les devoirs. Et après, la liberté au jeu jusqu'au repas. Donc on jouera non plus finir. Donc moi, j'habitais le centre-ville, mais je jouais à m'éclater. C'était n'importe quoi. C'était aussi bien, on prenait un carton, quelqu'un rentrait dedans et puis on roulait dedans. Ça pouvait être jouer aux billes, ça pouvait être courir, jouer à cache-cache, essayer de s'attraper. On refait des petites farces aux voisins, les mettre dans le noir, en disjonctant le compteur. On n'avait pas vraiment de jeux comme les enfants. On s'éclatait beaucoup plus par nos propres moyens, en réfléchissant et en inventant plein de jeux. C'était le collet maillard, c'était quelquefois la corde à sauter pour les filles, d'autres fois l'élastique parce que bon, ça, on a connu aussi.
Mais c'était beaucoup de jeux de troupe, donc, où on jouait à la bagarre, où on jouait aux billes, c'était des billes qu'on appelait les osselets. Mais ce n'était pas les osselets à l'époque, c'était des petites pierres que nous prenions, et ça s'appelait le piscine. Et donc nous jouions avec, c'était des parties interminables, nous jouions aux cartes. Donc, mais c'était vraiment, tout se passait toujours en groupe. Nous aurions le jeu individuel, on ne connaissait pas trop. Parce que c'était comme le voisin, la voisine, parce que nous étions en fait les mêmes enfants qui se retrouvaient à l'école, se retrouvaient aussi dans le même immeuble. Donc, en fait, nous prenions à ce moment-là, c'était toujours des jeux de collectivité. Il n'y en avait jamais un à part. C'était toujours le groupe.
Alors, les jours où on avait, après l'école, on avait quartier libre, c'était le mardi soir et le samedi. Parce que les devoirs, on les faisait les mercredis soir et les dimanches. Mais sinon, les jours de la semaine, alors il y avait deux cas de figure, parce que moi, j'étais élevée à Sainte-Anne, mais alors le mardi soir, on partait à la campagne, parce que ma mère travaillait, et on allait chez la mamie. Alors, à la campagne, c'était beaucoup plus intéressant, parce que bon, on arrivait le mardi soir, on avait quartier libre. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Alors, le mardi soir, on arrivait, alors on commençait les jeux. Généralement, il y avait des jeux pour les filles et des jeux pour les garçons. Alors, les filles, c'était plutôt la marelle, sauter à la corde et ce qu'on appelle les ousselets, on appelle ça piscine. Et les garçons, c'était les jeux de bagarre, c'était les vibratures, enfin, c'était... Mais, généralement, les garçons se retrouvaient entre garçons, comme elle dit. C'était des jeux très inventifs, mais on était toujours en collectivité. On ne trouvait pas des gens complètement isolés. Il n'y avait pas des enfants isolés. Bon, et quand il faisait noir, parce qu'il faisait noir très vite aux Antilles, il y avait 18h, c'est bien noir, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait plus rien. Alors là, après le bain, on se réunissait, on avait monté, et on se réunissait autour de ma grand-mère ou de mon grand-père, qui nous racontait des histoires, ce qu'on appelle des contes. C'est généralement des histoires en créole, et qui racontaient un petit peu la légende, les superstitions, enfin... Alors souvent, on rentrait dans le lit, parce qu'on n'avait pas... On était complètement effrayés. Mais je ne sais pas qu'on était mazou, mais bon, on revenait quand même à la charge. Bon, ça se passait comme ça à la campagne. Sinon, en ville, généralement, on rentrait d'arbre, c'était les livres, les devoirs. Et seulement après, on avait quartier libre, mais qui ne durait pas longtemps parce que ça faisait noir de vie. Alors là, comme on se retrouvait, j'ai une sœur et un frère, on se retrouvait en collectivité, et puis généralement, on jouait un peu tout. Un peu de marée, la sueur dans le noir, c'était généralement des jeux en collectivité. Parce que la différence, c'est qu'on n'avait pas d'appui, on n'avait pas d'appui ni éducatif, d'appui pour créer des jeux, et on se portait très bien. C'était bien, on s'inventait des jeux, alors que maintenant, je vois mes petites cousines et mes nièces, pourtant ils ont beaucoup d'appui, des ordinateurs, mais j'ai l'impression que ce sont des enfants qui s'ennuient, c'est pas pareil du tout. Pas pareil. Ça ne pas jouer. C'était une belle enfance, en tout cas.
C'est vrai que c'est que moi, le côté dommage, il est vrai que mes enfants sont nés ici, ils ont grandi ici, mais cette enfance, et c'est pour cette raison que je me dis que c'est une enfance que j'ai un peu de regret par rapport à eux, parce que c'est une belle enfance, et là, nos grands-parents ont beaucoup compté, parce qu'effectivement, la place des grands-parents, comme elle disait, le soir, la plus belle chose, c'était être autour de nos grands-parents. Ils nous racontaient des histoires, dormir debout quelquefois. Et nous en étions béats à écouter, et on y revenait inlassablement, et on en réclamait. Et c'était leur plaisir de nous raconter, c'était leur plaisir de les écouter et les entendre. Et ce sont des moments de l'enfance que pour rien au monde, je ne changerais pas ça, de revenir en arrière et revivre cette époque. Où c'était superbe. Et je sais aussi, en tout cas, on habitait à la ville, lorsqu'il y avait, par exemple, une coupure d'électricité, nous étions ravis parce que toute la ville dans le noir, c'était super. Enfin, c'est là qu'on inventait des jeux de serpeurs, on courait dans les jambes des adultes parce qu'ils ne voyaient pas et que nous étions petits, on sourcillait partout. Et en fait, un rien pour nous devenait juste plaisir. Un petit truc qui embêtait, en fait, qui dérangerait les adultes, mais c'était notre bonheur. Ça faisait notre bonheur. C'était trop à rien, mais c'était merveilleux.
Maman, moi, qui fait du ridou, Iba Nicolas, Iba, moi, j'adore. Tous les jours, c'est la farine cesse, la morirotie, et puis, fouille à part. Les manières ou les moins vénéraux, si maman moins pas capable moins manger. Les manières ou les moins vénéraux, si maman moins pas capable moins rien. Maman moins qui fait du ridou, Iba Nicolas, Ipaba moins yadan. Tous les jours c'est la farine sèche, la morue rôtie et puis fouille à peur.
Je m'appelle Hadj Ouari. Je suis algérien, plus exactement d'Oran, la capitale de l'ouest du pays qui se situe à 450 km d'Alger. J'ai vécu dans un quartier qui s'appelle José Maraval, en plein centre de la ville.
Bonjour, je m'appelle Pas Le Nia, le père de Laurent Thieu à l'école maternelle de Vitry. Moi, je suis du Cambodge, dans la ville de Chabi, c'est la capitale, qui s'appelle Phnom Penh. Et j'ai quitté le pays à 12-13 ans. Et puis, depuis, je suis installé à Paris et banlieue parisienne en France depuis.
Maman d'élève de Daniel Casanova, de maternelle de Vitry-sur-Seine. Alors moi, je suis née à Paris. Mes parents sont originaires d'Algérie. Ils sont nés à Mazouna, un petit village près de Relizane, qui se situe à peu près une heure d'Oran. Moi, c'était un coin charmant et très calme.
Y aller à l'école dans ton pays quand tu étais petit. Peux-tu nous raconter?
Donc, je ne suis pas passé par la crèche ni par ma maternelle. Ça a été directement l'élémentaire. C'était bilingue à l'époque, arabe-français. Donc, les deux premières années, c'était le préparatoire. Donc c'était bon, apprendre les mots, les chiffres. Après c'était l'élémentaire, le CE1, CE2, pendant deux saisons. Bon, c'était un peu l'écriture, le calcul. Après c'était le cours moyen, c'était l'histoire, la géographie. Et à la fin de la saison, du CM2, Donc on passait l'examen qui s'appelait le sixième. Donc c'est ce que j'ai réussi. Donc j'étais admis à l'école, plutôt au collège d'enseignement moyen. Donc le sixième, la cinquième, la quatrième. Après, il y avait à la fin de la quatrième, j'ai passé le diplôme qui s'appelait l'examen pour décrocher le BEG, le brevet d'enseignement général. Donc j'étais admis en seconde, puis la première, la terminale, j'ai eu le bac, et après j'ai passé encore 3 années de formation dans un institut de pétrole où j'ai décroché le BTS, diplôme de technicien supérieur. Donc c'était riche à l'époque. Bon, le problème, c'est vrai que les crèches et les maternelles manquent là-bas. Donc, si je prends l'exemple d'Oran, la crèche n'existe que depuis peut-être, je dirais, 15 ans. Pour une ville qui compte un peu plus d'un million d'habitants, avec 10 crèches, je dirais que c'est vraiment pas assez. Donc, les femmes, c'est vrai, la majorité des femmes ne travaillent pas là-bas. Donc, elles gardent les enfants. La maternelle, c'est pareil, mais ça, c'est très important, surtout quand on sait que après, bon, il y a le primaire. Donc le primaire, donc il faut être bien préparé pour pouvoir suivre correctement, pour que les maîtresses, ou je sais pas, n'aient pas de problème, pour que ce soit un peu plus facile pour eux, quoi. Il n'y a pas eu de problème, non. La scolarité que j'ai menée, c'était le bilingue, je peux même dire 50-50, hein, 50% en arabe, 50% en français. J'ai vécu là-bas pendant 32 ans, et j'y suis que depuis 90 en France, donc la scolarité bilingue me permet de m'exprimer plus ou moins bien en français, quoi.
Vaguement, donc, j'ai quitté le pays assez tôt, à 12-13 ans. Certains souvenirs que j'en garde sont les meilleurs. On est dans une famille, on est assez privilégié, entre guillemets, dans la mesure où mon père ou mes tontons ont tous travaillé auprès des Européens, auprès des Français aussi bien que des Anglais, dans l'ambassade ou dans les firmes de cachot ou de cigarettes. Mais dans la famille déjà de base, on parle déjà trilingue, sinon quadruplingue, dans la mesure où mes parents sont descendants par ailleurs d'origine chinoise. Ils sont nés au Vietnam, ils sont remontés au Cambodge. Moi-même, je suis né au Cambodge. Donc déjà, par l'automatisme, dans la famille, on parle déjà les trilingues, dont le vietnamien, le chinois, le cambodgien. Et après, la scolarité vient après, parce que l'enfance en Asie est très protégée, entre guillemets. L'école est obligatoire à partir de 6 ou 7 ans, donc ce qui pourrait équivaut en France à la classe peut-être de CM1 ou CME. On appelait plutôt la classification un peu différente. Dans la mesure à l'époque, on appelait plutôt l'école maternelle, la 12e ou la 11e, la 8e, d'où l'équivalence vient après. Et puis, sinon, le rythme ou l'équivalence, on pourrait les trouver à peu près en France. Dans la mesure où, quand je suis venu à 12 ans, j'ai passé ce qu'ils appelaient la classe de 6e, de 7e à 6e. Il y avait un examen qui s'appelait je ne sais plus quel brevet, qui doit correspondre en France, peut-être le passage du collège au lycée. Et puis après, jusqu'à 3e, c'était l'objectif de passer notre diplôme. Et puis, qui nous permettrait de rentrer dans un autre niveau, qui ne peut pas à l'université, qui doit correspondre au niveau bac français. Grosso modo, c'est ce qu'ils ont parcouru, mes frères et sœurs, mais que je n'ai pas eu la chance de continuer, parce que j'ai dû arrêter en classe de 6e, à cause plus ou moins de la guerre, pour réfugier, pour venir en France. Donc j'ai pu m'intégrer tout de suite dans l'école française. au niveau, si vous voulez, généralement, au niveau scientifique, mathématique, ou langue étrangère, dont je suis grandement bénéficiaire, j'ai eu aucun problème. Dans le niveau, l'équivalence a fait son passage très normalement. Sauf quelques difficultés, certes, en français, parce qu'on m'explique, mais on apprend tout en français. Et j'ai un peu de déphasage, un peu de décalage, ou un peu de niveau inférieur. Mais quand même, à souligner, et je suis content dernièrement de voir notre ministre Alec dans l'éducation, qui demande grandement à ce que des enfants puissent faire leur première ou deuxième langue, qui est l'anglais, aujourd'hui très important, dans les quatre coins du monde, malgré que d'autres tests en allemand ou en espagnol, peu importe. On ne peut pas ne pas y souscrire, parce que j'en fais partie moi-même à apprendre le français dans la classe de 8e, donc j'avais peut-être à peine 9 ou 10 ans. Donc j'ai eu aucun problème de faire ces deux langues, et ce qui m'a permis d'ailleurs de m'intégrer tout de suite en France, où j'ai dû reprendre la classe de 5e tout de suite en arrivant, que j'ai même pas terminé un trimestre en 6e, mais c'est pas grave, ça s'est fait, il suffit d'un effort, et puis on peut toujours y arriver. Une bonne volonté, d'ailleurs, que j'ai à souligner. Il ne faut pas oublier, peu importe les difficultés, une bonne volonté, on y arrive sans trop de peine. Et j'ai gardé beaucoup de souvenirs, et puis c'est très content qu'on puisse faire changer le système aujourd'hui, à ce que des enfants puissent partager d'autres langues. Et comme d'autres, ils sont plus ou moins d'accord, ça mérite à ce qu'ils nous rejoignent.
J'ai mon père qui a été scolarisé dès l'âge de 6 ans, parce que là-bas il commence qu'à 6 ans. Et il y est resté jusqu'à à peu près 10-12 ans. Ensuite, il a dû un peu travailler parce que bon, là-bas on travaille très jeune. Et ensuite, il a eu la chance d'avoir des amis français. Donc ils l'ont un peu éduqué point de vue français et sa langue à lui-même. Ensuite, il a dû partir en France très tôt pour aller travailler. Il avait certainement entre 15 et 16 ans. Il a dû travailler là-bas jusqu'à à peu près 18-19 ans. Il est retourné dans son pays. Bon, il s'est marié avec ma mère. Ma mère, par contre, elle n'a pas été à l'école longtemps, 2-3 ans. Son père est décédé, donc elle a dû travailler pour sa mère. Et puis, bon, c'est tout ce que je sais, en fait, sur la scolarisation de mes parents.
À la maison, pour l'instant, non seulement bilingue qu'on va faire Laurent, mais je crois qu'on va suivre l'exemple où ma femme et moi, on a passé sans difficulté, d'où on est très, très riche en culture et en langue. Dans le musée, ma femme, elle est d'origine chinoise, elle est cambodgienne. Donc, de la complicité des dialectes des langues chinoises, déjà, on peut dire qu'ils ont une cinquantaine. Heureusement qu'ils sont pas éclatés pour l'instant. Donc ma femme parle déjà 3 dialectes en chinois, donc on voudrait lui transmettre à Laurent tout simplement le mandarin, qui est la langue nationale écrite par ailleurs, qui est utilisée par tous les Chinois, un peu partout dans le monde, on appelle encore par ailleurs les Chinois d'outre-mer, qui est le mandarin qui s'utilise. Par contre, à ne pas oublier non plus par ailleurs notre Chinois d'origine, qu'on est descendant de la région de Canton, qu'on appelle les Tietchou, qui est très... Ce sont une lignée de gens qui sont très respectés du Confucius. Donc ça lui en fait déjà deux, malheureusement. Ou bien tant mieux. Et puis par ailleurs, il y a aussi le cantonais qui est très utilisé professionnellement, commercialement. Donc on essaie de ne pas dire qu'on transmet, mais plutôt naturellement, par le jeu ou bien par les communications, à travers grand-mère, tonton, tata. Donc pour l'instant, Laurent, il en capte deux facilement, c'est de dialecte chinois. Le troisième, je pense qu'il allons écrire, on va le faire plus tard, puisqu'il ne faut pas non plus bousculer des choses, comme certains me sourient gentiment. Et puis bien sûr, le Cambodge, d'où je suis de la nationalité du pays. Donc j'ai passé par ailleurs mon bac français ici en France avec l'option du Cambodge qui y est par ailleurs. Et puis donc si on en compte gentiment, ça fait déjà 3 ou 4. Laurent doit faire bientôt avec les nouvelles mesures en CM1 ou CM2 l'anglais par ailleurs. Puis le français, je pense qu'il pourra facilement capter, d'où je n'ai pas de problème. Dans la famille, chacun de nous possède le parler de 6 à 7 langues et l'écrit 3 à 4. Donc, je crois quelque part pourra nous suivre. Et puis, Paillot a souligné que le langue Paillot en France en possède 138. Le Laurent ne fera que 4 ou 5, donc il pourra facilement en capter. Si plus, pourquoi pas, tant mieux pour féliciter et puis soutenir les gens de langue. Courageusement, ils en ont fait, je crois, en moyenne 130, 138, si ma mémoire est bonne. Eh bien, ensemble, on va continuer cette fois.
Alors moi, je parle l'algérien, si on veut, pas l'arabe littéraire, mais plutôt le argot de chez nous. Je le parle pas tout à fait couramment, mais bien entendu, j'ai été obligée de l'apprendre parce que ma mère ne parle pas français. Elle le comprend très bien, mais ne le parle pas. Mon père parle très bien français, l'écrit, le lit, enfin, bien. Alors, je sais qu'en école primaire, on fait les cours d'arabe. Donc, mon fils, cette année, a eu l'intelligence de s'y inscrire. Alors, comme moi, je ne peux lui apprendre l'écriture et la lecture, alors il s'est inscrit dans cette école. Moi, il commence là maintenant à un peu écrire cette langue. Il le parle comme moi, enfin, le argot. Il est bien obligé parce que c'est pareil, quand il est chez ses grands-mères et quand il part au pays, généralement là-bas, pas tout le monde a la chance de parler français, surtout les ancêtres, quoi. Parce que les jeunes, bon, maintenant, parlent tous français, mais quand ils se trouvent avec les grands-parents ou les arrière-grands-parents, il est bien obligé, lui et le petit Yacine, que vous avez entendu tout à l'heure, à parler la langue algérienne. Mais c'est bien dommage pour moi, parce que j'aimerais bien moi-même lui apprendre à écrire ou à parler bien couramment. Alors, c'est bien que l'école en France fasse que les enfants d'Algérie puissent parler et écrire leur langue par le biais de ces enseignants qui viennent de l'étranger.
Donc, par ailleurs, ce que je voudrais ajouter, si possible, c'est que autant des parents que des enseignants continuent le courage à transmettre toutes les connaissances à avoir à nos enfants et à tous les autres enfants, parce que, heureusement, et par ailleurs, en France, la santé et l'école est obligatoire et publique, d'où ils peuvent en bénéficier directement ou indirectement, à nous de les soutenir, parce que je crois qu'ailleurs, au Cambodge, ou une bonne partie en Asie, n'ont pas cette chance par ailleurs, et il y a vraiment l'école à deux vitesses, d'où avec aisance financière, les parents puissent les emmener à bonne voie, jusqu'à la fin, à un certain niveau. Sinon, c'est un peu délaissé aussi par ailleurs. Alors, bon courage à tous les enseignants et tous les parents de les accompagner. Et puis, pour ne pas oublier aussi, chez nous, je crois, on disait à l'époque, on peut encore transmettre aujourd'hui, qu'il y a toutes les puissances en haut sur notre tête, qui est le ciel et tout. toutes et tous les autres qui sont au-dessus. Après vient à l'ancienne époque, c'était le roi, donc on peut faire le parallèle avec le gouvernement ou bien le président qui dirige le pays. Par ailleurs, après vient les enseignants, avant les parents, le respect que doivent les enfants dans un autre. Donc en classification, c'est d'abord tous les gens au-dessus qui sont au-dessus de nos têtes. Après, c'est les dirigeants. Après, les enseignants et vient les parents. Alors que les enfants et les autres n'oublient pas. Et puis, bon courage à nous tous, autant pour nos enfants, grandement qui doivent poursuivre au moins, je crois, une bonne vingtaine d'années avant de rentrer dans une autre monde qui est dans le monde actif. Et bien, qui s'en profite bien.
Alors, comme je disais, moi, je viens du pays d'Algérie. C'est un pays très beau et très riche. Et en été, il y fait très beau. On peut même bien s'y promener. Il y a de très jolies plages. Et vu la situation actuelle qui se passe là-bas, bon, c'est pas pour autant que j'y vais pas. J'y vais tous les ans. Je suis fière de mon pays. Et j'espère qu'un jour, il y aura la paix dans ce pays, quoi, qui nous fait quand même beaucoup de peine.
École Franoa,
Paris 13e.
On est les CPA et les CPB.
Il va y avoir une fête des 5 continents. On va manger des plats de tous les pays. On va danser et on va faire la fête.
Les parents emmènent des plats.
On va leur poser des questions sur leurs plats. Tu prépares un plat italien alors que tu es française?
Parce que tu me l'as demandé. Parce que papa est d'origine italienne et que je cuisine beaucoup de cuisine italienne.
Et c'est qui te l'a appris?
C'est mon beau-père qui me l'a appris. C'est lui qui est vraiment italien.
C'est le père de papa. D'où vient ce plat?
C'est un dessert que j'ai fait, un tiramisu qui est... Aucune idée. À mon avis, il se fait dans toute l'Italie et de façon différente.
tutti i miei pensieri, il mio pranzo e la mia cena, libertà mia sola amica, quando avevo tutto e niente e credevo che la gente fosse tutta amica mia.
Est-ce que ça se mange chaud, le plat turc?
Oui, c'est pas chaud. C'est pour les foies à manger. Il s'appelle börek. Il y en a dedans, il y en a épinards avec le fromage. C'est tout.
Tu es un yamoudum. Est-ce que comme tu étais petit, tu mangeais?
Oui, bien sûr. C'est maman qui l'a fait tout, toujours.
Qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Comment on fait?
Börek, il y en a avec les farines, je fais avec farine d'abord. La deuxième chose, je fais mettre dedans épinard, fromage, sel, c'est tout. Je fais avec la main, oui, avec les cuirs, à le four, four.
M'appelle Maureen. Quel repas as-tu fait?
J'ai préparé des acras, façon antillaise.
Quels sont les ingrédients que tu as mis dedans?
Pour 250 g de farine, j'ai mis un œuf entier, des épices, donc thym, poivre, morue. Mais la morue, déjà, il faut la faire échauder déjà, Il faut enlever les épines, les arêtes, quoi. Il faut enlever les arêtes, la peau, et puis les chics taillés. Après tout ça, on met dans 250 g de farine, on met du thym, du poivre, du persil, des oignons, un demi-paquet de levure, un verre de lait. Un verre de lait. Et un œuf entier et une cuillère d'huile. On mélange le tout. Quand tout est mélangé, on bat deux blancs d'œufs en neige, on les fait bien monter. Après, on mélange le tout à la pâte. Et voilà, après, on fait une casserole d'huile bien chaude. Et puis, on met par petite cuillère. Une casserole d'huile bien chaude, bien bouillante. On met par petite cuillère et on les surveille. Ça monte et on les retourne au fur et à mesure. Si on aime le piment, si on aime épicé, on met un peu de piment. Si on n'aime pas épicé, s'il y a des enfants, on met pas de piment.
As-tu aimé ton plat?
Moi, de toutes les manières, je réussis toujours très bien mes acras. Je suis toujours bien félicitée. À ce que j'ai vu, il reste presque plus. Donc, tout le monde a bien mangé. Donc, ils ont apprécié.
Est-ce que tu aimes bien manger tes acras?
Ah, ça, c'est sûr. Hein? Quand je les fais, je ne les goûte jamais. Mais quand c'est fini, je goûte.
Est-ce que c'est un plat qu'on fait tous les jours?
C'est un plat que je fais à l'occasion quand il y a une cérémonie, quelque chose. Parce que c'est un plat qui prend beaucoup de temps quand même. Il faut prendre son temps pour pouvoir le préparer parce que sinon ça rate. Moi j'aime bien les faire moi. Tu sais, quand on a une fête, on me demande toujours, Marie-Pierre, tu te charges des acras. Parce que j'ai réussi à merveille et puis tout le monde aime.
Là-bas.
Le couscous, voilà, le couscous essentiellement donc d'Algérie, parce que bon, il y a chaque pays maghrébin a sa façon de préparer le couscous, et donc moi je suis algérienne, et en ce qui me concerne, je prépare le couscous très très fin, voilà, donc il y a une façon de préparer, de tremper le couscous. On le met dans un grand plat, on l'imprègne d'eau, on le travaille, on défait les grumeaux, et c'est très très long. C'est vrai que c'est très bon, mais c'est très long à faire. Voilà, donc on le travaille pendant au moins d'une demi-heure à trois quarts d'heure. On on le passe une première fois dans la couscoussière, on le laisse évaporer, voilà. Ensuite, on le reverse dans le grand plat, on rajoute du sel et de l'eau, on le retravaille à nouveau et très chaud si possible. C'est typiquement de la tradition. Et on le repasse donc une seconde fois par moitié. Donc on remplit à nouveau à moitié la couscoussière, on attend que ça fume et on met petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Et donc ensuite à la fin on le remet à nouveau dans le plat, on met du beurre, on le retravaille un petit peu, on met du beurre et voilà, c'est fini. Mais c'est vrai que c'est très long. Voilà. Pourquoi on fait le couscous en France? Eh bien, c'est parce que d'abord, c'est bon. C'est un mets excellent. Je suis née en France, mais j'ai été élevée à la culture algérienne. Et donc, maman nous l'a toujours appris. C'est nous, les filles, chez nous, qui cuisinaient. On faisait également le pain ou la chouchouka, bon... plusieurs mets. Et donc le couscous, on l'a pris, moi je l'ai appris personnellement, j'avais 13 ou 14 ans. Voilà, je regardais maman le faire, le travailler, voilà, et c'est resté, c'est dans nos mœurs.
Personnellement, j'aime bien le couscous avec la sauce, le bouillon. Elle l'a fait bien.
Est-ce que ton papa aime le couscous?
Oui, il aime bien.
Il est de quelle origine?
Sri Lankais.
On mange du couscous au Sri Lanka?
Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'il aime.
Est-ce que toi, tu aimes les plats indiens?
Personnellement, j'ai jamais goûté.
Le riz ou kiri? Tu manges beaucoup chez papa, ça, le riz ou kiri? Hein? Il en fait souvent. Et tu aimes?
Je m'appelle Sonia. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Sonia comme toi. Et ma fille, c'est Irina.
Quel plat as-tu apporté?
Alors moi, j'ai apporté deux tartes au fromage. Deux tartes au comté. C'est du fromage qui se fabrique dans le Jura. C'est ce qu'on mange à la campagne dans le Jura. Voilà.
Comment on l'a fait?
Alors moi, c'est ma mémé qui habite dans le Jura. Donc c'est la recette de ma mémé. Alors on met de la crème, on met des œufs, on met du comté. Et puis on met ça dans une tarte, on met ça au four. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que toi, quand tu étais petite, tu mangeais ça?
Alors quand j'étais petite, j'aimais pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais à la campagne. À la campagne, on mangeait une soupe des légumes et une tarte au fromage. Et j'aimais pas la soupe et j'aimais pas la tarte au fromage. Mais maintenant, je suis grande et maintenant, j'adore ça.
J'aime la tarte au fromage parce que un jour, j'ai goûté avec maman parce que c'est maman qui m'a fait goûter. Et puis, j'aimais bien. Alors, j'ai goûté plusieurs fois et puis j'en mangeais. Est-ce que tu avais recarté une recette?
Non, je sais faire ça par cœur. Parce que j'ai vu ma grand-mère en faire, j'ai vu ma mère en faire, et maintenant je sais les faire. Et maintenant c'est ma fille qui est en train d'apprendre pour savoir le faire. C'est pas comme ça chez toi? Tu regardes pas comment ta maman a fait la cuisine?
Moi je regarde sur mes magazines. Pierre mange du riz orange et du couscous.
Est-ce que ta maman elle regarde une recette?
Des fois quand elle sait pas, oui, mais des fois quand elle sait, elle, non.
Est-ce que Irina t'a fait une recette toute seule?
Parce que maman, je pouvais pas la faire toute seule parce que sinon je faisais n'importe quoi parce que je savais pas très bien la recette parce que c'est la première fois que j'en fais une. Bonjour, je m'appelle Saint-François.
qu'est-ce que tu as fait comme plat?
Eh bien, j'ai fait du tiéboudienne, Jean-François.
D'où est bien ce plat?
C'est le repas national du Sénégal.
Est-ce que c'est long à faire?
C'est très long. Ça prend environ 2h30. Sinon, 3h si on compte la préparation.
Comment on le fait?
Eh bien, le tiéboudienne, c'est du riz au poisson qui est fait avec... on cuit le riz à l'intérieur du jus du poisson. Déjà, le poisson est fait à base de sauce tomate, ce qui donne la coloration rouge au riz. Et le poisson, qui s'appelle le tchof, il vient du Sénégal. On le farce, on met de la farce dans la chair et après on met dans le bouillon. Quand le poisson et les légumes sont bien cuits, on enlève les légumes, le poisson et un peu du jus. Après, on met le riz à l'intérieur du jus, on couvre et on prépare comme si on faisait du riz blanc. Et c'est quand, avec le jus du poisson, donne la coloration au riz, la coloration rouge. On l'appelle tiéboudienne. Et c'est un plat qu'on mange pendant les fêtes, les grandes occasions.
Est-ce que tu aimes ça, toi, ce plat?
Oui.
Pourquoi tu l'aimes, ce plat?
Parce que c'est bon.
Bah oui, mais qu'est-ce qui est bon?
Ben, le riz, le tiéboudienne.
On trouve tout en France, heureusement pour nous. Au marché Château Rouge, on a les légumes qui sont vendus par les Chinois, et il y a des Africains aussi qui vendent. Le poisson, il arrive aussi de l'Afrique. Donc, parmi les légumes, on a du chou, de l'aubergine, des carottes. Et puis, on met aussi du poisson séché, un petit morceau de poisson séché pour donner le goût. On met du piment, de la tomate, et on assaisonne, on fait tout pour que ce soit bien relevé. Comme on aime bien manger du relevé. Ça s'appelle tiéboudienne. Tiéboudienne, ça veut dire riz au poisson. Mais de temps en temps, on se sent nostalgique et on aime bien préparer de temps en temps des plats de chez nous. Ça nous permet de garder nos racines. Cela n'empêche pas qu'on mange aussi des plats français parce que l'intégration passe partout. Le repas, la culture, le sport. Il faut que l'intégration soit parfaite, mais cela n'empêche pas qu'on sait d'où on vient et il faut aussi garder ses racines.
Bonjour, je m'appelle Marine. Je vais poser des questions à ma maman. Quelle recette as-tu ramenée?
Alors, maman l'a ramenée du boudin antillais, donc de la Martinique. Alors, le boudin antillais se compose de sang, de pain, de boyaux pour les enfants nés. Il faut des cives, qu'on appelle ici la ciboulette. Il faut donc du sang, du pain, de la cive, des oignons, des épices, bois d'Inde, poivre, sel, laurier, thym, voilà, ail, oignon France. Et puis après, on malaxe tout ça et on remplit dans les boyaux et on fait cuire. Voilà.
Et j'aime le boudin antillais. Est-ce que tu aimes vraiment le boudin antillais?
Oh, maman, elle adore le boudin antillais. Pourquoi? Bah déjà les origines et puis parce que c'est très très bon et voilà. Ça fait penser aux Antilles, au soleil, la chaleur et tout, voilà.
Est-ce qu'on en mange toujours aux Antilles des boudins?
Non, pas tous les jours. C'est vrai que c'est plutôt pour les fêtes et ou à l'occasion quand on reçoit du monde, des amis, on sert un apéritif en fait. Mais c'est vrai qu'à l'occasion des fêtes. C'est une tradition, le boudin antillais est toujours là, quoi.
Est-ce qu'on boit du rhum en Martinique?
Ah, bien sûr. D'ailleurs, le boudin antillais est traditionnellement servi avec le petit punch, c'est-à-dire du rhum, du sucre et du citron vert.
J'aime pas le rhum. Est-ce que le boudin antillais, ça pique la gorge?
beaucoup d'antillais et assez relevé puisque c'est composé de... C'est avec du piment en fait. Donc le piment est déjà plus fort que le poivre. Et c'est vrai qu'avec avec le punch derrière, ça... ça active le... Ça pique pas.
Est-ce que pour ça, ça pique la gorge?
Non, enfin maintenant, je sens plus, bon, quelquefois. Au début, mais après... avec l'habitude, puis maman elle aime bien les plats relevés, donc c'est pas un problème.
Bonjour, je m'appelle Shadia et je vais poser des questions à ma maman sur son pays. De quel pays tu es?
Alors, je suis née à Maison Alfort, mais j'ai vécu très longtemps à Djibouti. C'est en Afrique.
Quels sont les plats que vous faites là-bas?
Alors, le plat traditionnel que nous mangeons tous les vendredis est un plat à base de riz et de poisson avec une sauce rouge très épicée.
Comment ça s'appelle?
Ça s'appelle le rose ou sanouna.
Et les autres jours?
Les autres jours, c'est souvent... Des plats à base de riz aussi, on mange de la viande, on mange du mouton quand c'est la fête du mouton, on mange des petites boulettes de poisson et on mange beaucoup de poisson parce que c'est un port, donc le poisson est pêché tous les jours.
Est-ce que ta famille vit là-bas?
Alors mon grand-père est toujours là-bas et j'ai une tante également qui vit là-bas, mais malheureusement moi ça fait longtemps que j'y suis pas retournée, j'y suis retournée en 82 en vacances et depuis j'y suis jamais retournée.
Et aussi, est-ce que tu as une maison là-bas?
Oui, j'ai la maison de mon grand-père, qui vit là-bas, toujours.
Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu manges toujours les plats et est-ce que tu arrives à les faire?
Eh ben, malheureusement, non, je ne les mange pas parce qu'on ne m'a pas appris à les faire. Mais je suis mariée avec un monsieur qui est marocain. Donc, eh ben, de temps en temps, je fais des plats marocains, c'est-à-dire du couscous, des tagines... Et c'est lui qui m'a appris à les faire parce que je ne suis pas du Maroc, mais je connais.
Moi, j'ai mangé comme tous les enfants, hein, des choses comme tous les enfants. Hein. Pour le Maroc, du couscous. Et pour ici, des frites, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu mangeais quand t'étais petite, petite?
Alors je vais te dire que quand je sortais de l'école, mon grand-père il venait me chercher et il m'apportait toujours un cornet de cacahuètes pleines, grillées. Et c'était toujours ça que j'avais quand je sortais de l'école. Et j'adorais ça.
Et comment le premier jour qui t'a donné ça, c'était quand?
Ben, ça devait être le premier jour de la rentrée des classes, mais j'étais vraiment petite, donc je m'en rappelle plus. Hein.
Comme ça et pas autrement, merci papa. Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Maori du bout du monde, intouchable au fils de roi, petit homme en boucle blonde, italien de Charleroi, jamaïcain d'Angleterre, marabout de Courbevoie, notre pays c'est la terre, chacun est ici chez soi. Dans d'ivoire et peau d'ébène, polynésienne aux yeux bleus, marocain de Carthagène, portugais de Saint-Brieuc, teint de rose, cheveux de laine, fils de l'argile et du bois, dans d'ivoire et peau d'ébène, même veine et même doigt, tous nés.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique le talentueux Xavier Lecomte, que je remercie très chaleureusement. Cette émission préenregistrée est consacrée à l'éditeur Léo Cher et à son